I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alors, je m'appelle Fanny Macagnan, j'ai 43 ans et je suis employée polyvalente chez Lidl à Carpentras. J'ai 3 postes dans l'entreprise, je fais la mise en rayon, je suis au rayon pain et en caisse. Je permets aux gens de se nourrir tout simplement, donc pour moi mon travail est extrêmement important et c'est vrai que cette crise fait que je me rends compte encore plus que mon travail est important. Et quelque part c'est valorisant ça. Je suis fière de pouvoir dire, ben, je vais travailler, je vais quelque part nourrir une partie de la population. Et si j'étais pas là, ben, si moi et mes collègues n'étions pas là, bien sûr, je peux pas être toute seule, mais on est un maillon de la chaîne et on est indispensable. Et quelque part, vu que c'est un métier au départ qui ne demande pas de qualification spéciale et qui n'est pas valorisé dans la société actuelle, et ben là, je me sens très valorisée au contraire. Presque une héroïne. J'exagère, mais pas loin. Presque. Voilà.
D'habitude, ils sont presque invisibles. Ils gagnent des petits salaires et ils font des boulots souvent ignorés ou méprisés. Mais depuis le début de la crise sanitaire, on ne parle que d'eux, ceux qui ne sont pas confinés parce qu'ils travaillent. Les livreurs à vélo, qui pédalent pour que nous, on n'ait pas à mettre le nez dehors. Les travailleurs de l'hôpital, évidemment, ceux des supermarchés. Ceux qui traversent la France avec dans leur camion des tonnes de nourriture ou ceux qui continuent de ramasser les poubelles. On les remercie. Pour certains, on les applaudit. Ils sauvent des vies, nos vies, que ce soit sur une table d'hôpital ou en nous permettant de ne pas mourir de faim avec un frigo vide et sans papier toilette. Tous ces gens, qu'on ne voyait pas forcément hier, nous semblent aujourd'hui indispensables. Dominique Méda est sociologue du travail. Elle voit dans cette crise sanitaire l'occasion de repenser la hiérarchie sociale des métiers. Engagée, elle prône une reconversion écologique où le travail aurait une place différente. Elle est au micro d'Adrien Nazelli. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Travail en cours.
Dominique Méda, le dénominateur commun des personnes qui continuent de travailler, c'est qu'elles touchent les plus bas salaires et qu'elles ont souvent les plus faibles niveaux de diplôme. On pense aux caissières, aux éboueurs, aux boulangers, aux livreurs. En quoi cette crise nous fait-elle sauter les inégalités du monde du travail au visage ?
Alors, il n'y a bien sûr pas que les professions peu rémunérées qui sont mobilisées, hein, parce qu'on pense bien sûr aux médecins, aux infirmières, aux professeurs, aux techniciens. Bon, mais c'est vrai que beaucoup des travailleurs mobilisés sont des professions qui sont très peu rémunérées. Et en fait, il s'agit surtout de métiers occupés par des femmes, l'un expliquant l'autre, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a 2 grands types de métiers qui sont en première ligne. Il y a ce qu'on appelle souvent les métiers du care, et puis il y a les métiers de la vente. Et c'est vrai que dans ces 2 types de métiers, on retrouve de gros bataillons féminins, hein, les aides-soignantes, les aides à domicile, les caissières, qui sont parmi les emplois les plus mal rémunérés, à la fois à cause du temps partiel, hein, c'est beaucoup des personnes qui sont à temps partiel, et puis aussi, c'est un autre point très important, à cause de la sous-valorisation systématique de leur qualification. C'est-à-dire, on parle souvent, quand on parle de ces métiers, on parle souvent de métiers non qualifiés ou peu qualifiés, comme si les compétences dont elle dispose, en fait, c'était le prolongement de compétences naturelles, quoi. C'est-à-dire comme si de toute éternité, naturellement, les femmes savaient soigner, changer des couches, faire des piqûres ou nettoyer. Et donc, ce sont en même temps ces personnes-là qui sont obligées de venir travailler et dans les conditions actuelles, qui sont obligées de venir travailler sans équipement de protection et donc qui prennent des risques. Et le pire, je dirais, c'est que ces personnes, souvent, elles sont dans des positions très dominées et donc elles ne peuvent pas ou elles n'osent pas exercer leur droit de retrait. En plus, elles doivent prendre les transports en commun. Bref, là, on est en effet en plein dans des inégalités qui sont redupliquées par rapport aux inégalités classiques en œuvre dans le monde du travail.
En quoi est-ce qu'on assiste en fait à un vrai renversement, peut-être des valeurs du travail ?
Ce sont les métiers les moins valorisés et les moins bien payés, hein, les aides à domicile qui font les toilettes, les éboueurs, les caissières, dont souvent on se moque. Hein, et bien, soudainement, ce sont ces métiers-là qui deviennent absolument essentiels et dont on va découvrir le caractère presque absolument vital. Hein. Et je crois que ça fait reconsidérer avec énormément de distance, hein, tout le discours sur la Startup Nation et aussi certains métiers et évidemment la hiérarchie des salaires. Hein. La hiérarchie des salaires. Alors, attention, c'est pas parce qu'on est confiné ou qu'on télétravaille qu'on est inutile. Je pense qu'en ce moment, les profs, par exemple, font un boulot magnifique. Hein. On voit bien, par exemple, qu'il y a un grand nombre d'élèves ou d'étudiants qui continuent à voir leur journée structurée et leur attention soutenue par des professeurs qui font du télétravail. Mais en effet, je pense qu'on assiste là à un renversement du gradient de la valorisation sociale des métiers.
C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de métiers qui doivent se sentir parfaitement inutiles ? En ce moment, vous parliez de la Startup Nation.
Alors, des métiers inutiles, voire toxiques, je dirais les consultants New Public Management, qui ont contribué à détruire l'hôpital et une grande partie des services publics, les banquiers, les traders quand ils ne sont pas régulés, les conseillers en communication politique, les publicitaires, voilà, beaucoup de métiers dont on voit bien que non seulement ils servent à rien quand la société va très 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 mal, quand il y a une urgence, mais qui de surcroît, je me mets toujours dans l'idée de la crise écologique, contribuent à aggraver et la résilience des sociétés et la crise écologique.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des travailleurs des applis, pour reprendre le titre d'un de vos derniers ouvrages ? On pense aussi aux intérimaires qui, pour certains, ont appris qu'ils ne seraient pas payés s'ils exerçaient leur droit de retrait. Finalement, en quoi est-ce que cette crise révèle certaines apories des nouveaux types de travail ?
C'est eux vraiment les nouveaux domestiques de la société. C'est eux qui continuent à aller livrer des pizzas ou à manger aux gens qui ne bougent pas de chez eux. Donc, il y a quelque chose de tout à fait scandaleux, bien sûr, alors qu'ils n'ont pas d'équipement et qu'ils ont évidemment, ils sont dans un rapport de force où ils n'osent pas, où ils ne peuvent pas exercer leur droit de retrait. Et je crois qu'il faut réfléchir quand je parle de nouvelle domesticité, parce que ces travailleurs des applis, hein, c'est eux en fait qui prennent le risque du contact, c'est eux qui font le contact. Or, on nous dit aujourd'hui que le contact est dangereux, donc aujourd'hui on paye pour ne pas avoir le contact. Et moi je me dis que si ça nous fait réfléchir sur les travailleurs des plateformes, tout ça, il faudrait sans doute, parce que on pourrait répondre, les livreurs, c'est super important, ça permet d'aller porter des choses, des colis, de la nourriture à des personnes qui en ont besoin. Alors, je dis oui, mais à ce moment-là, revoyons leur statut, c'est-à-dire donnons-leur le statut de salarié. Et puis, est-ce que vraiment, il ne faut pas réserver ce genre de service aux personnes qui ont vraiment des difficultés, par exemple aux personnes âgées ? Et à ce moment-là, est-ce que ça ne serait pas à des plateformes municipales de rendre ce type de service ?
En Italie, on a arrêté toute activité de production qui n'est pas vitale. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas en France ? Et qu'est-ce que cette crise nous dit sur la perception des professions qui seraient nécessaires ou accessoires par notre gouvernement ?
Alors, je crois, hein, d'après ce que l'on lit, que l'Italie, elle nous montre vraiment, elle est juste devant nous. C'est-à-dire qu'elle vit les événements avec une semaine d'avance sur nous. Donc, je pense que l'Italie nous montre le chemin, qu'il ne faut pas tergiverser et qu'il faut en effet réduire le nombre de personnes qui travaillent vraiment à l'essentiel de l'essentiel, c'est-à-dire les gens qui nous permettent de manger, d'avoir de l'électricité, de l'eau, enfin voilà, les services vraiment essentiels. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'on se fiche de l'économie, mais je dis juste que pour l'instant, ce qui doit prévaloir, en effet, c'est la santé du plus grand nombre de personnes possible, et qu'on doit oublier, en effet, pour l'instant, l'économie et le marché. Mais je pense que, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, ils veulent soutenir l'économie, ils veulent préserver, disent-ils, les capacités de production pour qu'il y ait un rebond en sortie de crise. Mais ça pose toute la question de ce qu'on fera après et de la sortie de crise. Est-ce qu'on va revenir au business as usual? J'espère bien que non.
Alors Dominique Méda, on a dressé un peu un panorama de ce qui se passe en ce moment, et en fait ce qu'on aimerait, c'est maintenant se tourner vers l'avenir, essayer de voir si cette crise peut déboucher vers un monde meilleur ou si rien ne va changer. On va essayer d'y répondre en plusieurs étapes. Pour commencer, j'aimerais vous demander une chose. On sent que c'est voulu par la plupart des gens qui applaudissent tous les soirs à 20h à leur fenêtre, puisqu'on est en guerre et que toute guerre a ses héros. Aujourd'hui, c'est les soignants, c'est les professions médicales qui sont en première ligne. Est-ce que le gouvernement va être contraint de répondre à leurs demandes? Est-ce que c'est le début d'une période d'investissement massif dans les hôpitaux?
J'ai des collègues qui ont écrit la casse de l'hôpital, la casse du siècle, un très très joli petit livre sur l'hôpital public qui revient sur le nombre de lits qu'on a fermés, sur justement le rôle de ces consultants qui ont appliqué ces recettes débiles du New Public Management à l'hôpital et qui ont cassé l'hôpital. Je crois qu'il faudra vraiment revenir sur leurs responsabilités quand on sera sorti de cette crise, et qui ont cassé l'hôpital, qui fait que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que si on est obligé d'être confiné et de voir toute notre activité économique s'arrêter, c'est aussi parce que on sait que notre hôpital ne pourra pas résister à des flux massifs de personnes. Donc voilà, j'espère qu'on va revenir sur ces errances de ces dernières années. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me choque énormément, c'est que dans le vote de la loi de finances rectificative, il y a 2 milliards pour... alors, pourquoi? On ne sait pas très bien. Pour l'hôpital, pour l'assurance maladie, on nous dit que c'est pour les indemnités journalières des aides-soignants, peut-être pour leurs heures supplémentaires, mais il n'est pas prévu d'augmentation de leur rémunération. Et la phrase qu'a eu Gérald Darmanin, quand il a dit que la meilleure des reconnaissances, c'était de faire, pour les soignants, c'était de faire les gestes barrières, a été vécu comme une gifle immense par les soignants. Donc vraiment, il faut absolument qu'on sorte le plus rapidement possible de cette situation, et évidemment qu'il faut non seulement augmenter d'urgence les soignants, mais revenir sur toute la politique hospitalière telle qu'elle a été menée depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire rouvrir des lits, redonner à l'hôpital la place qu'il n'aurait jamais dû perdre. Ma très grande crainte, c'est qu'il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on nous dise, bien sûr, ils se sont très bien comportés, mais regardez l'état de notre déficit. On a, alors pour l'instant, on prévoit 3,9, mais on a 3,9%, on a 5% de déficit. C'est monstrueux. On ne peut pas. L'état est exsangue. On ne peut pas. Voilà ce que je crains, et voilà pourquoi je pense qu'il faudra vraiment qu'on mette en place des comités de vigilance pour obliger ce gouvernement ou un autre à prendre les mesures qui s'imposent. Il ne faut surtout pas qu'on recommence comme avant. La question fondamentale, c'est de savoir si cette crise que nous sommes en train de vivre va ouvrir sur des changements radicaux ou pas. Alors, il y a un type de changement radical auquel moi j'aspire, c'est que l'on prenne enfin en considération la question de la crise écologique. Maintenant, il y a autre chose, c'est est-ce que nous n'allons pas remettre en cause collectivement le capitalisme tel qu'il s'est déployé, notamment dans ses formes les pires depuis une vingtaine d'années, le capitalisme financier rempli de prédateurs, de gens qui ne pensent qu'à leur propre profit, avec une béance entre l'économie réelle et l'économie financière qui est absolument folle. Est-ce que nous allons laisser se développer ce type de capitalisme, ou bien est-ce que nous allons le remettre en cause? Est-ce que nous n'allons pas pouvoir aller vers un type de société où ce serait vraiment les besoins sociaux qui seraient mis au centre et non pas le profit. Bon, ça, évidemment, ça serait une forme de rupture avec le capitalisme, hein, puisque le capitalisme, il se caractérise par la priorité donnée au profit et à l'accumulation. Donc, voilà ma vraie question. Et je pense que c'est ça qui fait peur à un très grand nombre de gens. Des gens qui ont tout intérêt à ce que ça ne change pas. Est-ce que notre colère va être suffisamment grande pour aller jusqu'à remettre en cause le capitalisme qui caractérise nos sociétés actuellement ?
Et quelle pourrait être la voie d'expression de cette colère ? Puisque si on se replonge dans les dernières années très récentes, il y a eu quand même énormément d'événements très surprenants et imprévisibles par le pouvoir, comme les Gilets jaunes, par exemple. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on serait sorti de cette crise, est-ce que le gouvernement peut s'attendre à un raz-de-marée de Gilets jaunes, mais cette fois avec 20 fois plus de monde ?
Ce qui est intéressant, c'est que les gilets jaunes ou les précédentes manifestations de colère, le gouvernement a réussi à les cantonner et à laisser penser que ça ne concernait qu'une petite fraction de la population. Or là, c'est l'entièreté de la population qui a été soumise à ce régime complètement fou de confinement, d'informations contradictoires, qui se rend compte de l'impréparation. Alors, quelle forme ça pourrait prendre ? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que moi, je suis bombardée de messages de gens, de toutes sortes de gens, qui disent tous « ça n'est pas possible qu'on continue comme ça après, les changements devront être majeurs ». Donc, il va y avoir, en effet, une envie, une aspiration, une colère et une volonté de changement qui va être énorme. Maintenant, par qui va-t-elle être canalisée ? C'est très préoccupant, hein, parce qu'on peut très bien penser, par exemple, que le Rassemblement national va capitaliser sur cette colère et va faire des propositions très nationalistes pour l'après-crise. Donc là, je pense que nous avons un travail énorme à faire pendant la crise pour préparer la sortie de crise et pour que les citoyens ne se fassent pas voler cette réflexion et cette possibilité de changer de société.
Pour rebondir sur ce qu'on disait au début, hein, dans le constat sur le fait que cette crise rend visibles les différences entre ceux qui travaillent, ceux qui télétravaillent, ceux qui restent chez eux au chômage technique, parfois même au sein d'une même entreprise, qu'est-ce que cette mise en lumière des différences de traitement peut entraîner pour la suite, notamment chez les personnes à qui on a demandé de travailler ? Qu'est-ce que ça peut créer comme... Est-ce que ça va être du ressentiment, puisque vous parlez du Rassemblement national ?
Alors... Oui, bien sûr, du ressentiment, de la colère. Mais maintenant, le problème, c'est que on est resté, et même on a dit tout à l'heure que les différences sociales, les différences de classe s'étaient amplifiées avec cette crise. C'est-à-dire qu'en gros, une partie des gens ont pu se mettre en retrait. Je ne dis pas tranquillement, hein, mais voilà, ont même pu continuer à travailler. Ce sont des gens qui, pour partie, leur vie n'a pas énormément changé. Et puis, il y a vraiment des gens, entre les soignants, les livreurs, les caissières, etc., dont la vie a été très bouleversée, qui se sont sentis en première ligne. Mais justement, toute la question, c'est de savoir si on pourra construire des revendications collectives avec encore ces différences de classe qui subsistent. Ça me fait penser, vous savez, parce que vraiment, je pense qu'on va être obligé de comparer sans arrêt à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, moi, je pense énormément à ça. Ça me fait penser au très bel exposé des motifs des ordonnances qui créent la sécurité sociale. Dans cet exposé des motifs, ce qui est dit, c'est que on souhaite mettre fin à ces divisions de classe et notamment à la division entre d'une part des classes possédantes sûres d'elles-mêmes et d'autre part des classes de travailleurs qui sont soumis à l'incertitude permanente du lendemain et que la sécurité sociale c'est vraiment la nouvelle organisation qui va nous permettre de remettre toutes ces classes en quelque sorte à égalité et qui va permettre d'organiser une redistribution non seulement horizontale mais également verticale et on va mettre en place, disent-ils, un vaste système d'entraide obligatoire. Donc il y a une volonté de d'égalité et de dépasser les clivages entre classes qui me semble très importante. Et pourquoi on a ça? Et pourquoi on peut se permettre ça? Parce que une partie des employeurs et des classes dirigeantes se sont très mal comportées, ont collaboré. Une partie de la classe ouvrière et de la CGT ont été dans la résistance et sortent auréolées de cette situation. Et donc, on parvient à rebattre les cartes. Là, je ne sais pas si on dispose de tous les moyens pour rebattre les cartes.
Donc, c'est-à-dire que ce renversement des valeurs qu'on constate aujourd'hui, il ne sera pas forcément pérenne une fois la crise terminée.
Je pense que le mieux pour nous, ce qui serait tout à fait désirable, l'idéal, ça serait qu'on fasse la même chose que ce qui s'est passé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dès 1944, alors que la guerre n'est pas finie, il y a deux événements très importants, il y en a beaucoup. En 1944, on a à la fois la déclaration de Philadelphie, de l'Organisation internationale du travail, qui dit plus jamais ça, qui dit que c'est l'inégalité et les mauvaises conditions de travail qui conduisent à la guerre et donc qu'il faut absolument les préserver. Et puis on a le plan qui est produit par le Conseil national de la résistance. Et donc on va avoir en 1945 toute une série de mesures, en France et ailleurs, qui changent radicalement le paysage, qui change radicalement de politique. C'est la grande époque du keynésianisme, etc. Aujourd'hui, si nous parvenions à reconstruire nos sociétés, moi je dis qu'il faut une reconversion écologique, c'est-à-dire il faut un changement radical de paradigme. Si on arrivait à promouvoir des politiques radicalement différente et en rupture avec le néolibéralisme, ce serait absolument formidable. D'une part, parce qu'évidemment, on est absolument obligé de s'engager dans cette reconversion écologique pour conserver des conditions de vie un peu humaines, quoi, parce qu'on sait très bien que sinon, ça va devenir catastrophique. Mais il me semble qu'on pourrait en même temps en tirer d'autres dividendes. On parle souvent d'un double dividende. Si jamais cette reconversion écologique nous permettait de créer des emplois, or, il me semble que il y a là une possibilité, hein. On dispose maintenant d'études qui nous montrent que, certes, la reconversion écologique, elle nous obligera à fermer des secteurs, mais aussi à en ouvrir de nombreux, à ouvrir de nouveaux secteurs et donc à développer de nouveaux métiers, voire à transformer des métiers existants. Et puis, on pourrait avoir un triple dividende si on en profitait pour réorganiser le travail. Et là, on a un champ de réflexion absolument gigantesque parce qu'il y a la question de savoir comment on revient sur la division internationale du travail qui est à l'œuvre aujourd'hui. Qui est complètement folle, hein, avec le fait qu'on a laissé partir des productions absolument stratégiques de médicaments, de masques, de tout ce qu'on veut. Donc on le voit parfaitement aujourd'hui. On a laissé partir toute notre industrie textile. Donc comment est-ce qu'on fait pour, est-ce qu'on profite de cette crise pour rapatrier un certain nombre de productions, relocaliser un certain nombre de productions et aussi pour produire autrement. C'est-à-dire si on n'a plus ces grandes multinationales qui passent leur temps à mettre les législations nationales du travail en compétition les unes avec les autres, et si on revient à des formes peut-être plus petites d'organisation du travail, des PME, peut-être des coopératives artisanales, on a vraiment un énorme champ de réflexion. Parce que vous voyez, une question que je me pose, c'est, il faut faire un investissement financier massif dans la transition écologique. Avec mes collègues, on avait parlé de 20 milliards, c'est souvent un chiffre qu'on trouve, hein, de 20 milliards supplémentaires d'investissements publics par an, par exemple dans la rénovation thermique des bâtiments, les infrastructures, etc. Mais sur quelle base? Est-ce qu'on reconstruit radicalement nos villes? Est-ce que on doit démétropoliser les villes, c'est-à-dire sortir de ces énormes malls urbains dans lesquels les gens sont serrés? Est-ce qu'il faut faire revivre les petites villes et les rendre autonomes énergétiquement, alimentairement? Donc ça, évidemment, ça recréerait énormément d'emplois, des emplois sans doute beaucoup plus basiques, des emplois manuels, voilà. Donc vous voyez, on a un champ immense de réflexion à ouvrir.
Si on voulait être un petit peu provocant, Dominique Méda, on pourrait dire que cette crise sanitaire, c'est une opportunité, en fait, pour une prise de conscience générale autour de la transition écologique.
Oui. Alors, ça peut être la pire comme la meilleure des choses. Hein. La pire des choses, ça serait que non seulement on reparte comme avant, mais qu'on reparte comme avant dans une situation économique radicalement dégradée. Et ça peut être épouvantable, hein. C'est-à-dire que on peut retomber dans un chômage encore pire que celui qu'on a connu. On peut se faire tailler des croupières par des pays qui nous voudraient pas du bien. On peut se faire acheter des pans entiers de ce qui reste de notre industrie. Donc ça peut être épouvantable, disons-le. Et puis en effet, si on s'y prend bien, ça peut être une formidable opportunité pour bifurquer. Pour aller dans un autre sens. Mais je ne sais pas, vous savez, est-ce que la crise, c'est le meilleur moment pour penser ça? Normalement, on dit toujours que c'est quand ça va bien qu'il faudrait prévoir, anticiper les changements. Est-ce qu'on va être capable de le faire en pleine crise, alors qu'on va avoir des taux de chômage et une récession énorme? Je ne sais pas si on en sera capable.
Vous dites qu'on ne peut pas s'attendre du marché à ce qu'il n'essaye pas de reprendre ses droits, de toute façon, une fois que la crise sera sortie. Alors, qui est-ce qui pourrait... Vous parlez de comités de vigilance. Quels pourraient être ces comités de vigilance, en fait, une fois que la crise sera terminée? Comment les mettre en place?
Alors, bon, d'une part, il y a les partis. Alors, tout le monde dit, les partis, ça ne sert plus à rien, etc. Mais ils ont quand même... moi, je crois qu'ils sont encore très essentiels. Les partis, ça a été jusqu'à maintenant les lieux où se faisait la réflexion et des programmes. Moi, ce que j'imagine, concrètement, c'est que là, pendant encore les 6 semaines de confinement qu'on risque de vivre, il faut absolument que d'abord chacun réfléchisse au type de société qu'il veut, à l'ampleur des changements qui seraient nécessaires. Et puis, il faut que se forment un peu partout, me semble-t-il, des groupes, alors des groupes virtuels, bien sûr, mais qui réfléchissent à la sortie de crise, au programme, exactement comme ça s'est fait pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, où vous aviez, alors, il y avait le PC, il y avait les gaullistes, voilà, il y avait des regroupements de gens qui n'étaient pas nécessairement des intellectuels, hein, il faut absolument qu'il y ait toutes sortes de métiers, de fonctions qui soient représentées, les syndicats sont très, très importants aussi, il faut que nous parvenions à écrire des programmes, des projets, et à être prêt lorsque viendra la sortie de crise et du confinement.
Pour continuer dans les perspectives qui pourraient être réjouissantes, vous parlez d'instaurer un revenu maximum. En quoi est-ce que ça pourrait être une idée qui émerge pendant cette crise et après cette crise? Et quel serait ce revenu maximum, par exemple? Et à quoi il servirait?
Là encore, je reviens alors d'une part à ce qu'on a vécu là. On a vu que c'était les gens les moins rémunérés qui étaient partis au front. Et puis, je pense aussi à la reconversion écologique et aux doutes légitimes qu'une partie des classes populaires ont de l'intérêt de cette nouvelle société, de la reconversion écologique. C'est-à-dire, eux, ils ont tout à y perdre puisqu'ils savent très bien que la reconversion écologique, ça va être des produits plus chers et puis ça va être des métiers qui vont disparaître. Donc, les classes populaires, d'abord, elles ont peur de cette reconversion écologique et puis c'est pas du tout leur sujet parce que leur sujet, c'est juste d'avoir assez d'argent à la fin du mois. Hein. C'est la fameuse opposition fin du mois, fin du monde. Donc, il me semble que si on veut les entraîner, leur montrer qu'ils peuvent être complètement partie prenante et même au centre de cette nouvelle société, il faut absolument avant résoudre la question sociale, c'est-à-dire remettre presque les situations à plat, réduire les inégalités. Sinon, les classes populaires n'y croiront pas et freineront des quatre fers. C'est exactement ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Hein. On a augmenté la taxe sur les carburants sans se souvenir de la structure de ce type de taxe. C'est-à-dire que ce sont les plus modestes qui payent le plus fort tribut avec ces taxes et qui en même temps polluent le moins. Donc là, on risque d'avoir la même chose. C'est pour ça que je dis que avant même la transition écologique et pour, en quelque sorte, solder la crise que nous venons de connaître, il est absolument essentiel de réduire les inégalités. Et par exemple, moi, j'imaginerais tout à fait qu'en sortie de crise, on lève un impôt élevé sur les plus grosses fortunes, c'est-à-dire que d'une part, on remet une tranche, une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu, par exemple à 60% à partir, je ne sais pas, d'un 150 000 euros, que l'on remette en place l'ISF et que les plus fortunés participent à ce qui va être une forme de reconstruction de la société.
Est-ce que cette crise va changer philosophiquement la notion même de travail ?
Moi, il me semble pas, non. Je dirais que elle va changer sans doute des choses à la division internationale du travail et à la valorisation, à la hiérarchie sociale des différents métiers, à la considération qu'on leur donne. Mais je ne suis pas sûre que ça va changer fondamentalement la valeur travail.
Et alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner à rêver si je vous disais que vous aviez, 30 secondes, une minute pour nous dessiner le monde idéal du travail une fois qu'on aura trouvé des solutions pour soigner ce virus et prendre en charge les malades et qu'on sera sorti de cette période très complexe?
Eh bien, je pense... Alors moi, j'ai longtemps rêvé à une société où le travail prendrait moins de place. Au tout début de ma carrière, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Le travail, une valeur en voie de disparition », où je disais qu'il fallait mieux partager le travail. J'ai soutenu beaucoup la réduction du temps de travail. Donc, il me semble qu'avec la reconversion écologique, enfin, voilà, j'ai un peu abandonné ce rêve-là parce qu'il me semble qu'avec la reconversion écologique, en fait, on va avoir besoin de plus de travail. On va avoir besoin de plus de travail humain, en quelque sorte de plus d'huile de coude, tout simplement, parce qu'on aura moins d'adjuvants techniques, chimiques, consommateurs de CO2. Et donc, j'imagine une société avec plus de métiers manuels, plus de filières de recyclage, de réparation, y compris dans les petites villes, dans la campagne. Et j'imagine... un monde moins globalisé, une division internationale du travail beaucoup plus réduite et beaucoup plus de métiers finalement aisément accessibles à tous. Beaucoup plus de menuisiers, de charpentiers. Voilà, j'imagine peut-être qu'on va renouer avec finalement des métiers assez basiques qui nous permettront de satisfaire la plus grande partie de nos besoins sociaux. Vous voyez, ça ne veut pas dire que je veux revenir à une société des années 50. Je pense qu'il y a du bon à prendre dans tout ce que les 30 Glorieuses nous ont amené, notamment les progrès, les fantastiques progrès médicaux, quoi. Mais nous avons désormais à trier dans cet héritage et je pense qu'il y a beaucoup de bon à inventer dans cette société. Ça sera une société qui respirera mieux, ça sera une société dans laquelle il fera sans doute, à mon avis, mieux vivre que dans la société actuelle.
Merci beaucoup Dominique Méda.
Merci à vous, merci beaucoup.
Notre monde a la mémoire très courte. Et c'est possible que rapidement, une fois terminé, il ne nous reste juste qu'un vague souvenir un peu engourdi de cette période. Un souvenir noyé aussitôt dans des habitudes qui reprennent leurs droits, presque comme avant. Pourtant, de nombreux chercheurs, comme Dominique Méda, soutiennent qu'il y aura un avant et un après cette crise sanitaire. Parce que son ampleur est inédite et parce qu'elle nous concerne absolument tous. On se demande si ça sera au global, par exemple pour une transition écologique, si un infirmier va gagner plus parce que son travail est plus utile pour le groupe que, disons, un cadre commercial. Individuellement, ce moment particulier laissera sans aucun doute son empreinte en nous, plus ou moins grande, bonne ou mauvaise. Une modification, peut-être infime, mais indélébile, sur la manière dont on voit notre travail et la place qu'il occupe dans notre quotidien. Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Adrien Nazelli a réalisé l'interview de Dominique Méda. Chargée de production, Louise Emerlet. Responsable de production, Marion Girard. Responsable éditoriale, Maureen Wilson. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef. Cyril Marchand à la réalisation, Olivier Baudin au mixage. La musique est de Jean Thévenin. La semaine prochaine, on parlera de ce que ça fait d'avoir un travail plus grand que soi. Et on retrouvera Fanny, caissière dans le sud de la France, que vous avez entendue au début de cet épisode. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.